France Culture.
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés.
Cette histoire de collier vous intéresse à ce point?
Ce n'est pas une histoire de collier. C'est le plus grand procès de l'histoire. Oh, ce n'est plus autour d'un collier qu'on discute. C'est autour d'une couronne. Un cardinal escroc, la reine impliquée dans une affaire de faux. Tant de fanges sur la crosse et sur le sceptre. Quel triomphe pour le parti de la liberté.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Bonjour. Voilà déjà quelque temps que les historiens professionnels de l'université s'intéressent aux diverses manières qui se proposent en compétition avec leurs propres recherches de parler du passé à un public nombreux. Ils ont cessé pour la plupart de prétendre à aucun monopole, heureux d'ailleurs, souvent que d'autres chemins s'ouvrent du côté de la littérature, du cinéma, du théâtre et même de la bande dessinée au profit d'un civisme partagé et de curiosité bienvenue. Cette constatation ne nous empêche pas pour autant de passer au crible de l'efficacité et de la rigueur ces offres multiformes. Nous allons ce matin nous préoccuper de cela autour d'un bel ouvrage, celui que Camille Pascal vient de consacrer sous le titre « La reine du labyrinthe » à la célèbre affaire dite « du collier » qui ébranla la monarchie française à la veille de la Révolution et qui contribua probablement à sa déconfiture. Camille Pascal est agrégé d'histoire et conseiller d'État, et il a connu de près les arcanes du pouvoir, notamment en étant membre des cabinets de Nicolas Sarkozy à l'Élysée et de Jean Castex à Matignon. Son livre est sous-titré « Roman », et en même temps la bande de papier qui entoure les exemplaires en librairie promet la vérité sur l'affaire du collier, ce qui implique qu'on n'avait pas débusqué cette vérité jusque-là. Et ce qui affirme fièrement qu'en l'occurrence au moins, le genre romanesque permet d'aller plus profond que ce qu'avaient pu établir comme avéré les serviteurs patentés de Clio. J'ai donc convié ce romancier féru d'histoire à me rejoindre pour développer sa démonstration. En sachant que s'il arrivait que nous nous ennuyions en restituant sous une telle lumière et à partir d'une telle interrogation cet épisode plein de passion, de coups de théâtre, de faux-semblants, et d'hypocrisie, nous serions impardonnables. Et pour commencer, je vous propose un dialogue qui a été imaginé par des élèves de 4e du collège Sisteron qui offraient de la sorte librement leur regard sur l'affaire du collier et qui ont été donnés sur Radio Pôle Arènes en 2024. Vous allez voir jusqu'où peut pénétrer l'interrogation sur ce que fut cette prodigieuse histoire.
Aujourd'hui, nous retrouvons deux amis dans un salon aixois pour parler de l'affaire du collier de la reine.
Bonjour mon cher ami, comment vous portez-vous?
Je vais bien, et vous Jean-Baptiste?
Bien, voulez-vous une petite tasse de thé?
Avec plaisir mon cher.
Avez-vous entendu parler du scandale qui a éclaté au sein du royaume?
Évidemment, la reine est une vraie manipulatrice.
Comment?
Voyez-vous, elle manipule le roi pour qu'il exile le cardinal loin de Paris.
Quel propos sortez-vous à l'égard de notre reine?
Comment? Vous êtes du côté de la reine?
Bien sûr, la reine est la victime dans ce scandale.
Comment ça? Expliquez-moi, je ne comprends plus rien.
Bien, je vais donc vous expliquer cette affaire. Voyez-vous, la comtesse de la Motte. Elle faisait partie du cercle éloigné de la cour. Elle n'est donc pas vraiment très populaire à la cour. Elle a donc voulu se rapprocher de la royauté.
Mais comment?
La comtesse était au courant d'une vieille histoire entre la reine et le cardinal qui s'était fini à cause d'une histoire de racisme entre la mère de la reine et le cardinal. Le plan de la comtesse était de faire acheter la parure au cardinal pour ensuite la revendre chaque pièce et s'enrichir et donc se rapprocher de la royauté.
Et son plan a fonctionné ?
Oui, je ne sais point comment cela a pu fonctionner.
Comprenez-vous maintenant pourquoi la reine n'est qu'une victime ?
Bien sûr, pauvre majesté.
Les deux amis se sont expliqués et comprennent mieux l'histoire. La reine n'est qu'une victime pour les deux cette fois-ci.
Camille Pascal, bonjour.
Bonjour André Jeannet et merci de votre invitation.
Vous voyez qu'il y a de l'incertitude jusque dans ces voix juvéniles. Je ne sais pas comment, dit l'une d'entre elles, cela a pu se passer.
Oui, ben alors, en fait, ces deux élèves donc, de collège résument assez bien l'histoire. Et ce qui est très intéressant, alors on pourrait dire la vérité sort toujours de la bouche des enfants, mais c'est que la première voix dit, au fond, on dit à la cour que la reine est une manipulatrice et qu'elle a fait tout ça pour convaincre le roi d'exiler le cardinal de Rohan. Et la deuxième se réécrit en disant « Mais non, pauvre majesté, elle n'est qu'une victime. » Voilà, ben c'est toute la question en fait de cette affaire. Quel a été le rôle réel de Marie-Antoinette ? Est-elle une victime ? Est-elle coupable ? Ou bien est-elle fautive ?
J'espère que dans une heure, nous aurons la réponse à cette interrogation de fait assez angoissante. Mais avant toute chose, je voudrais vous titiller un peu, Camille Pascal, sur la grande question des relations entre le romancier et l'historien. Parce que je vois que dans un avertissement de l'éditeur, je me demande d'ailleurs si l'éditeur, ce n'est pas un faux masque qui est le vôtre, peut-être.
Heureusement qu'il y a des masques en littérature.
Bien sûr, mais souvent, vous rappelez que Musset disait d'un masque qu'il était si charmant qu'il avait peur du visage. Donc, ouais. Je ne développerai pas cette affirmation en ce qui vous concerne. Mais j'observe que dans cet avertissement, vous dites « Si, comme à son habitude, l'auteur, il s'agit de vous, ne s'est interdit aucun des artifices de la littérature romanesque pour faire de l'histoire, les faits rapportés dans ce récit sont rigoureusement exacts. » Et vous dites « La version que propose l'auteur ne doit rien à l'imagination, elle s'appuie au contraire sur une relecture de l'ensemble des sources connues. » Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme une contradiction sans imagination, un roman ?
En réalité, la question est, d'abord, un roman doit-il nécessairement être fictionnel ?
Ah bon ? Il n'est pas forcément.
Pas forcément. Écoutez, on nous tartine quand même de l'autofiction depuis 25 ans. Et si je ne m'abuse, sur ces romans d'autofiction, il y a bien écrit roman.
Vous n'avez pas de contradiction entre la bande de votre livre ?
Si, mais elle est faite pour. Au fond, c'est comment utiliser la littérature, le plaisir de l'écriture, le plaisir de la lecture, pour offrir un récit, qui soit le plus juste possible au regard de l'exigence de l'histoire. Et cette question que vous me posez, elle est ancienne comme la littérature. Au fond, je ne vais pas faire le fat, comme disait Nicolas Sarkozy. Arrêtez de faire le fat. Mais les deux...
Ah bon, il vous a fait cette prescription ?
Oui, oh là là, un nombre de fois incalculable. Et toujours avec gentillesse. Et donc, les deux grands texte fondateur de la civilisation occidentale, c'est-à-dire l'Iliade et l'Odyssée et les Évangiles, qui sont la nourriture, la première manne de la littérature occidentale, sont bien des histoires, racontent une histoire. L'une, c'est l'histoire d'Ulysse, l'autre, c'est l'histoire de Jésus-Christ.
Bon. C'est à cela que vous appliqueriez votre formule que vous répétez souvent, c'est du mensonge romanesque que naît la vérité historique.
Alors non, parce que c'est un deuxième temps, c'est-à-dire que ce que je voulais dire simplement, c'est que histoire et littérature sont par essence étroitement liées. Voilà. L'histoire ne peut être qu'un récit. Alors, bien sûr, nous sortons de 50 ans de structuralisme universitaire où l'on nous a expliqué, des gens d'ailleurs par ailleurs qui écrivaient très bien, ce qui n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui, mais on nous a expliqué que il y avait une vérité historique qui était celle des structures et qui pouvait émerger par un travail scientifique, sociologique, anthropologique, etc.
Certes, mais vous dites quelque part que nous avons renoncé au récit. Là, vous êtes vous retardez un peu parce qu'il y a au moins 30 ans, 40 ans que nous avons retrouvé l'événement, le récit, le plaisir de raconter. raconter en prenant quelques distances par rapport à ces, à ces préoccupations de fond que vous évoquiez il y a un instant.
Sauf que on n'a pas affirmé que la l'écriture romanesque pouvait approcher de la vérité historique. Ce que je crois profondément. Alors, pourquoi ? D'abord, parce que en France, l'histoire telle que nationale est née du roman. Voilà. Et moi, je, au fond, j'ai pour modèle Vigny, Dumas et même Augustin Thierry. Ce sont tous ces grands auteurs du début du XIXe siècle qui, se nourrissant des travaux historiques et des sources, ont raconté, alors à leur manière, l'histoire de France.
Je ne pense pas qu'on puisse mettre Augustin Thierry sur le même plan que Alexandre Dumas ou que Alfred de Vigny.
Oui, enfin, c'est ce qu'il a écrit sur les Mérovingiens et quand même très romancé.
Enfin, c'est une analyse qui a suite tenté évidemment discuter bien. Mais alors, avançons sur ce point, parce que de fait, nous éprouvons, nous autres historiens, que nous ne sommes pas du tout distanciés par rapport à l'événement. Et nous sommes parfois un peu surpris quand vous nous dites que les dialogues que vous rapportez sont tous exacts et avérés au service de votre roman. Reconnaissez qu'on est un peu surpris.
Non, en fait, ce que j'essaie de faire, si vous voulez, quand je construis un livre, et c'est pour ça qu'il, d'abord, c'est toujours un récit chronologique, c'est-à-dire des journées qui se suivent. Quand je construis mes livres, il y a trois quarts du temps de la recherche où j'essaie, jour par jour, d'accumuler tout ce qui peut me permettre de reconstituer les faits. Que s'est-il passé ?
Et ça, c'est un travail d'historien.
Oui. Et une fois que j'ai alors, sachant qu'évidemment, comme tout historien, je n'ai pas d'enregistrement.
Il y a des trous.
Oui, mais alors les trous, je les remplis jamais. C'est que d'auteurs de romans historiques vous diront, ce qui est formidable, c'est que quand il y a un trou, quand il y a une lacune, là, l'imaginaire peut s'engouffrer.
Chez nous aussi, chez les historiens professionnels aussi, il y a de l'imagination, puisqu'il y a, y a aussi des...
Bien sûr.
Des béances.
Mais je viens de cette histoire professionnelle, vous l'avez rappelé, je viens de cette histoire professionnelle, j'ai eu les grands maîtres de la Sorbonne, mais Jean-Jacques Arre, Michel Vauvel, enfin, toute cette génération des années 80 de la Sorbonne. Donc, ils m'ont appris la rigueur. Et en fait, à un moment donné, j'ai essayé de sortir de cette rigueur, de me dire, j'arrête les notes, je fais des choix. Je fais des choix parce que entre deux récits d'un même événement, à un moment donné, il faut bien faire un choix. Et surtout, je respecte la source, parce que c'est ce qui me paraît essentiel. Et ensuite, je mets en scène les sources. Et c'est peut-être dans cette mise en scène qu'est le travail du romancier.
La mise en scène est déjà une œuvre de distanciation par rapport à l'effort de l'historien. Et écoutons donc sur ces questions passionnantes entre le romancier, l'historien et le public. Écoutons donc une interview de Marguerite Yourcenar, qui a beaucoup réfléchi à ces questions. C'est une archive télévisée à propos de son livre magnifique, splendide, qui en inspire plus d'un, Les Mémoires d'Adrien. Une émission qui a été diffusée à la télévision le 11 mai 1968. Et après, vous me direz, Camille Pascal, ce que vous pensez des propos de Marguerite Yourcenar. Je ne suis pas mécontent que, puisqu'elle apparaît chaque semaine dans notre générique, on lui donne un peu plus d'espace pour une fois.
Votre personnage est un personnage de roman et en même temps un personnage historique. Vous avez donc été amené à faire une sorte de synthèse de l'imaginaire et de la vérité historique. Dans la mesure où il y en a une.
Je me demande si ce n'est pas le cas dans beaucoup de romans, et même de romans qui concernent la vie contemporaine. À la limite, la démarche de l'historien et la démarche du romancier peuvent se confondre. C'est-à-dire que le romancier, qui s'efforce de décrire avec exactitude le Paris de sa jeunesse, mettons, le Paris d'il y a 10 ans, qui s'efforce d'évoquer un certain milieu où il a vécu, de faire se mouvoir des personnages même imaginaires, mais qui sont pris tout de même dans le champ, dans le cadre d'une certaine époque, de certaines circonstances sociales et autres, fait sans le savoir œuvre d'historien. La plupart des romans historiques, il est vrai, je vous avoue que j'ai assez peu de goût pour les romans historiques, quoi que j'en écrive, la plupart d'entre eux ne sont des bals masqués, ou si vous voulez des scénarios pour Hollywood. Quelqu'un s'est amusé à s'imaginer ce qui se passerait s'il se déguisait en Marc-Antoine ou en Napoléon. Et on ne va pas plus loin. On a enfilé un costume.
À la limite, on pourrait se dire que l'artiste est libre de faire ce qu'il veut, que sa vérité est ailleurs que dans l'histoire au sens strict. À la limite, Le romancier, en somme, pourrait s'accorder tous les droits.
Nous, on n'a jamais tous les droits.
Vous sentez Camille Pascal en fraternité avec les propos de Marguerite Yourcenar ?
Alors d'abord, l'intelligence exprimée dans un français parfait et avec le ton d'un français qu'on ne parle plus, c'est un moment magnifique que vous offrez à vos auditeurs et qu'on ne peut pas recevoir sans émotion. Alors, je suis absolument stupéfait en écoutant ce que dit Marguerite Yourcenar, parce qu'au fond, on n'invente jamais rien. C'est ce que vous avez d'ailleurs essayé de m'expliquer tout à l'heure. On n'invente jamais rien, et comme Marguerite Yourcenar, je n'ai jamais aimé les romans historiques. Et je pourrais rajouter comme elle, et pourtant j'en ai écrit. Et elle a une formule qui est extraordinaire. Elle dit « Le roman historique, c'est un bal masqué ». Or, c'est ce à quoi je me refuse obstinément. C'est que je ne veux pas que mes personnages soient des mannequins d'osier auxquels on aurait enfilé des costumes de la Comédie française en leur instillant des pensées qui sont les nôtres ou en leur faisant dire des propos qu'ils n'ont jamais prononcés. C'est pourquoi, dans mes livres, je fais un travail de marqueterie. C'est-à-dire que je suis à la recherche, dans la documentation, de tout ce qui, vraisemblablement, peut-être, parce qu'à partir du moment où vous n'avez pas d'enregistrement, vous êtes soumis à celui qui a... Alors, vous avez plusieurs choses. Vous avez les mémoires. Bon, les mémoires, vous pouvez vous dire que ça a pu être amélioré, modifié, mais que celui qui écrit ses mémoires et qui se prête des propos, qui en prête aux autres, a été un retranscripteur fidèle, quoique. Ensuite, vous avez, notamment dans le cas de cette affaire, vous avez toutes les archives judiciaires, vous avez tous les interrogatoires. Donc là, vous entendez parler vos personnages, ce qui est quand même assez fascinant. Vous entendez parler vos personnages. Alors, ils ont une stratégie. Ils ont une stratégie. Quand vous êtes interrogé par un juge d'instruction ou un flic, vous avez une stratégie pour essayer de sortir au plus vite du bureau dans lequel vous vous trouvez. Donc, mais c'est eux qu'on entend et c'est pris avec une très grande fidélité par des greffiers. Arlette Farge a dit de très belles choses sur les interrogatoires. Elle a dit de très très belles choses dans Le Goût de l'archive là-dessus. Donc ça, je les découpe et je les replace.
Il y a des dialogues très nombreux dans votre beau livre. Et ce ne sont que des dialogues empruntés des archives ?
Je n'ai inventé aucun dialogue. La seule chose que parfois j'ai pu me permettre, c'est de rendre la phrase un peu plus compréhensible dans un français plus lisible, parce que le XVIIIe siècle a l'imparfait du subjonctif un peu facile, et qu'on peut être étonné que dans la... Voilà.
Nous aimons beaucoup ici l'imparfait du subjonctif.
Mais, peut-être, mais le lecteur parfois... voilà. Donc c'est les seuls... Non, simplement, quand je dis de la marqueterie, c'est que je les découpe, et je viens ensuite les coller dans mon propre récit. Là-dessus, j'y tiens beaucoup, parce que je ne veux pas faire parler les morts. Je m'y emploie, et c'est là que le romancier intervient, dans le discours indirect libre. Là, lorsqu'il n'y a pas de guillemets, ou qu'il n'y a pas un tiré, ou il n'y a pas en tout cas la convention d'imprimerie pour bien montrer au lecteur que c'est un dialogue, donc ce sont des phrases prononcées, c'est évidemment dans le discours indirect libre que le romancier affleure. Même si ce que je mets dans la pensée de mes personnages est toujours vérifié historiquement, mais...
Là, vous vous avancez beaucoup, parce qu'il y a toujours une part d'incertitude.
Exactement. Et donc, c'est là qu'on peut considérer que le romancier s'évade.
Entrons dans le vif du sujet et tâchons d'appliquer cette problématique, en particulier ce que vous nous dites sur le dialogue implicitement entre vérité et véracité. Appliquons cela à l'histoire elle-même, et je voudrais que vous l'évoquiez, tout le monde ne la connaît pas forcément en détail, et notamment sous la lumière que dans votre livre vous jetez. Et pour commencer, puisque une chose frappante, c'est que vous avez choisi d'avancer, non pas de façon exactement linéaire comme d'autres historiens, mais par journées successives, ce qui vous donne d'ailleurs l'occasion de planter des décors, ce que vous aimez beaucoup, architecturaux et d'architecture intérieure en particulier. Donc nous allons entendre un extrait du film, un des plus intéressants films, il y en a eu beaucoup, nous en parlerons tout à l'heure, qui a été consacré à l'affaire du collier de la reine, c'est celui de Marcel L'Herbier en 1946. Et j'ai choisi de braquer l'attention sur l'arrestation du cardinal de Rohan. On est en août, le 15 août 1785. Et à partir de là, ensuite, vous situerez cette scène qui est impressionnante, si vous voulez bien, dans la longue durée de cette affaire-là.
Monsieur le cardinal de Rohan a le fond de prétendre que j'ai entretenu avec lui une correspondance secrète, que je lui ai accordé des rendez-vous clandestins.
Vous prétendez cela, monsieur ? Ah, sire, je commence à comprendre que j'ai été cruellement trompé. Par grâce, évitez un éclat. Toute la cour est là. Daignez songer à l'honneur des miens, au nom de Rohan, à la dignité que vous m'avez confiée.
Ce sont là des scrupules que vous n'avez pas eus à l'égard de la reine. Sire, faites arrêter le cardinal.
Je suis le duc de Villeroy. Par ordre de sa majesté, veuillez arrêter monsieur le cardinal.
Il faut, Camille Pascal, que vous nous expliquiez comment cela est arrivé en nous résumant l'affaire. Non sans dire pour commencer que la devise qu'on prête d'ailleurs de façon un peu indue au Rohan pour montrer l'importance du personnage et le bruit que ça a pu faire, c'était « Roi ne puis, prince ne daigne,
Rohan suit ». Oui, c'est la devise. Et « Sine macula macla », une chaîne sans tache. La devise de la famille, c'est « Sine macula macla », c'est-à-dire une longue chaîne sans tâches. Alors là, les tâches, évidemment, ils en ont pris deux. C'était la faillite de Rohan Guéméné et l'affaire du collier. En dix ans, c'était beaucoup.
Alors, cette tâche, non, expliquez-nous.
En réalité,
qu'est-ce qui s'est passé?
Là, on va revenir sur l'épisode du 15 août. Mais il est essentiel parce que c'est là que ce qui était une affaire souterraine d'escroquerie, voire éventuellement de manipulation politique, éclate comme une affaire d'État et un scandale public. Voilà, là, c'est là où le monde, toute la France, comme aurait dit Madame de Sévigné, c'est-à-dire les gens qui comptent, ont pris conscience que quelque chose se passait. Bon.
Parce que l'escroquerie, c'est passionnant à toutes les époques. Ça rencontre le faux, l'imagination, la lucidité, la crédulité des uns et des autres.
La crédulité.
Et puis l'émergence, effectivement, comme vous le dites, qui parfois révèle bien plus que l'escroquerie elle-même.
Oui, parce que, alors, très, très rapidement, vous avez une aventurière, Jeanne de Lamotte, qui est authentiquement descendante des Valois.
Henri II.
Tout le monde a dit, oui, elle a inventé n'importe quoi. Non, Jeanne de Lamotte ment tout le temps.
Sauf là.
À tout le monde, sauf là. Et j'ai vérifié auprès des archivistes du roi, il y a son dossier, et on ne pouvait pas faire... Voilà. Donc, c'est vrai. Mais elle est totalement ruinée. C'est une famille qui est tombée, en démence, comme on dirait en Normandie. Et donc, c'est une famille qui est tombée. Et elle a, en elle, cette rage de revenir... C'est-à-dire qu'elle ne comprend pas que sa naissance ne lui offre pas la vie à laquelle elle a droit, en réalité. Hein. Ce n'est pas une révolutionnaire, hein. C'est vraiment une femme de l'Ancien Régime.
C'est là qu'elle arbore le titre de comtesse de Lamotte.
Comtesse Valois. De Lamotte Valois. Elle est authentiquement Valois. Elle descend d'une branche, évidemment, bâtarde. Et elle est totalement démunie, totalement démunie. Et elle va, assez vite, avec beaucoup d'intelligence, faire croire, par divers stratagèmes, qu'elle est protégée par la cour. Qu'elle est protégée par la cour, qu'elle a été protégée par la comtesse de Provence, puis par la reine elle-même. Mais qu'elle n'en dit rien, car comme elle est, il y a les Polignacs qui veillent sur le gâteau que représente Marie-Antoinette, elle ne veut pas de problème. Et cette petite rumeur qu'elle va construire elle-même va finir par se diffuser dans Paris. Et c'est intéressant parce qu'elle habite au Marais, et on voit à quel point d'ailleurs la cour et Paris ne communiquent plus. Et donc, dans son petit monde, elle va apparaître comme une protégée secrète de Marie-Antoinette.
C'est là que tout commence.
Et c'est là que tout commence.
C'est là que l'escroquerie s'affirme.
Voilà, parce que par ailleurs, elle a un amant, qui est le cardinal de Rohan.
Un mari et un amant, deux amants.
Elle a deux amants, elle a un amant, elle a un sigisbé, comme on dit, elle a un mari et elle a un amant protecteur, qui est le cardinal de Rohan. Et donc, comme c'est là où est le génie de cette femme, de psychologie, comme tous les escrocs, elle se rend compte qu'elle a en face d'elle un homme qui souffre d'une maladie terrible lorsque vous êtes un homme de cour, un homme de pouvoir, c'est la disgrâce. Et qu'au début, elle a pensé qu'elle allait utiliser le cardinal de Rohan pour rentrer dans ses droits. Puis elle se rend compte qu'en réalité, il n'a aucun pouvoir puisqu'il est disgracié.
Parce qu'il était ambassadeur à Vienne et que toute une série d'épisodes...
Enfin, surtout, il a insulté.
On ne peut pas rentrer. Voilà, oui.
Pour faire rire Madame du Barry, il s'est moqué de la... mère de Marie-Antoinette. Et ça, Marie-Antoinette, qui est un peu vindicative et surtout rancunière, ne lui a jamais pardonné.
Et quand on s'intéresse à la concordance des temps, vous mettez l'accent sur cette situation spécifique du courtisan qui tout à coup tombe en disgrâce. C'est un cas romanesque dont on pourrait trouver d'autres exemples. Et vous nous dites que votre expérience au cabinet de Nicolas Sarkozy vous a permis de voir ce type d'émotions possibles. On peut aussi penser à François de Grossoux.
Mais j'allais le citer.
Qui s'est tué à l'Élysée. Quand il a ressenti que François Mitterrand ne lui portait plus les mêmes...
C'est une maladie terrible qui vous ronge l'âme.
Vous l'avez éprouvé ?
Moi non, je m'en suis toujours protégé. Mais autour de moi, oui, bien sûr. Ça rend fou. Ça rend fou ou méchant. Et donc,
c'est pour ça qu'il faut hésiter avant de se mettre dans cette position, probablement. Vous avez dû hésiter aussi.
Non, mais on est toujours le courtisan quand on est dans, surtout en France, sous la Ve République et avec un pouvoir rayonnant. Mais à un moment donné, il faut savoir que c'est un jeu. Voilà.
Donc,
à partir de là, elle va commencer à lui soutirer de l'argent au nom de la reine, des sommes folles. Et il paye. Et là, elle se dit, mais le pigeon est farci, quoi. Hein. Donc, et.
Je vais vous remettre en grâce, c'est ça qu'elle lui dit.
Oui, elle lui dit, mais je dis. Non, mais surtout, elle est terrible. Elle dit, je parle de vous à la reine. Au début, elle ne voulait pas entendre votre nom, mais maintenant. Mais comme aujourd'hui, toute personne qui se vante de connaître Emmanuel Macron et qui va venir vous dire, ah, vous savez, ben, on a connu ça, vous et moi, c'est-à-dire, qui joue du name dropping, et je vais dire la ministre, et je vais. Bon, et vous pensez, il y a des gens qui pensent qu'en effet, ça va avancer. Et en réalité, ils se sont fait inviter chez Laurent. Bon.
Avec un talent inégal, d'ailleurs, suivant
inégal,
les escrocs.
Ou d'escrocs, ou de conseillers en communication, ou je vous ferai pas un dessin. Bon. Et donc, vous n'en avez pas besoin. Et donc,
comme vous voulez.
Elle a, à ce moment-là, elle est sollicitée par deux joailliers, Baumeur et Bassange, qui sont des étrangers, qui ont acheté la charge de joaillier de la couronne.
Ils ont été joailliers en Pologne avant.
Oui, mais surtout, ce sont, en fait, ce que l'histoire ne dit jamais, mais qui est la vérité, ce sont d'immenses financiers. Ce sont des banquiers, en réalité. Puisque j'ai découvert qu'ils étaient propriétaires de tous les ports de Lens, par exemple. Bon. Donc, voilà. Et ils ont constitué un collier absolument invraisemblable, certainement une commande de Louis XV pour la du Barry, d'ailleurs, qui est réuni 647 pierres.
2800 carats.
Et 2800 carats.
C'est une somme faramineuse, on a comparé à l'époque au coût d'un navire de guerre. 60 millions d'euros, calculez-vous aujourd'hui ?
Oui, à peu près. Et le fait est qu'ils se disent, mais la reine n'a jamais voulu de ce collier. Et ils se disent, maintenant que la guerre avec l'Angleterre pour de la guerre d'indépendance des États-Unis est terminée, on va pouvoir le fourguer. Et on a besoin d'intercesseurs. Et c'est là qu'elle monte cette incroyable escroquerie.
Tout se noue, oui.
Et elle habille son amant avec la livrée de Trianon. Et donc, le pauvre Rohan est convaincu que l'amant de Madame de Lamotte est un valet de Marie-Antoinette. Enfin, elle va très très loin. Elle va même jusqu'à organiser, et c'est l'autre grand clou de l'histoire, c'est-à-dire une visite nocturne.
Magnifique.
Nocturne dans le labyrinthe. C'est pour ça que mon livre s'appelle la reine du labyrinthe, parce que les reines du labyrinthe, elles peuvent être trois en réalité. Et donc, ils sont allés recruter une prostituée au Palais Royal, Nicole Leguet. Les fiches de police disent jolie, très bête, mais pas méchante.
C'est idéal pour une dangereuse rôle.
Voilà. Et elle ressemble vaguement à la reine. Donc, il la déguise. Et c'est là où Jeanne de Lamotte est formidable, c'est que c'est une Instagrammeuse, c'est-à-dire que elle pique des images. Et donc, elle a vu le fameux tableau de Vigée Lebrun représentant Marie-Antoinette en robe de chambre, hein, en chemise de nuit, et qui a fait scandale. Et elle va habiller Nicole Leguet pareil. Et là, je ne raconte pas la scène parce qu'elle est extravagante, mais le cardinal est persuadé qu'il a vu la reine. Comme quoi, quand vous êtes vous-même dans une souffrance psychologique et que vous êtes sous l'emprise d'une véritable arnaqueuse...
On devient le pigeon idéal.
Eh ben, on vous fait prendre des vessies pour des lanternes. Et en l'occurrence, une prostituée du Palais Royal pour la reine de France.
Alors, avançons.
Ensuite, ils vont dépecer le collier. En deux nuits.
C'est terrible quand on raconte ça à des joailliers d'aujourd'hui. C'est effrayant. Et vous avez une très jolie scène où vous racontez à quel point ils le font maladroitement. Oui. Il y a des petits bijoux qui sont pris.
Parce qu'en fait, ils l'ont fait avec les couteaux de cuisine.
Et qui sont pris dans le parquet.
Oui, et on sait qu'elle disait, mais non, mais ramassez pas ça, ça vaut rien, on garde que les gros. Et donc, on sait qu'il y a eu ce dépeçage parce que les joailliers anglais qui ont acheté les pierres, ils expliquent que les diamants sont abîmés avec la pointe des couteaux.
J'avais lu qu'ils s'étaient informés à Paris avant de...
Ils s'étaient informés pour savoir s'il y avait une plainte à Londres. Donc voilà, il y a cette scène. Et à partir de là, comment faire vivre le mensonge ? Parce qu'à un moment donné, par une fausse lettre, Jeanne de Lamotte a fait croire au cardinal que la reine allait rembourser par tranche. Et donc il faut toujours trouver, et c'est là où elle est incroyable, il faut toujours trouver une excuse pour expliquer, ah ben non, là elle est pas bien, elle va pas porter le collier parce que elle est enceinte à l'époque, donc et puis là il y a une, et à un moment donné on arrive au bout du bout, c'est-à-dire que quand même le cardinal, lui, il n'a pas dit qu'il allait offrir le collier, il a dit qu'il allait servir d'intermédiaire.
Mais il a donné de l'argent. À vous écouter, on se dit qu'on aimerait voir la manière dont Shakespeare d'un côté et Marivaux de l'autre auraient traité de cette affaire.
Bah écoutez, vous me mettez deux presse-livres de grand renom là. Mais donc, l'affaire finit par éclater, parce qu'en réalité, c'est ce que j'ai pu démontrer. En fait, l'entourage de Marie-Antoinette va être informé de ce vol et de cette relation entre le vol Rohan et cette femme Jeanne de la Motte très tôt. Et
plutôt que ne le dit d'ordinaire l'historiographie.
Exactement.
C'est ça que vous apportez, dites-vous, neuf.
Oui.
C'est qu'elle est moins innocente que c'est-à-dire une partie de l'histoire, on y reviendra, mais qu'une partie de l'historiographie ne l'a faite.
Tout à fait. Parce qu'en fait, elle a voulu utiliser cette escroquerie faite en son nom pour abattre un ennemi politique.
C'est comme ça qu'on arrive assez vite à la scène que Marcel L'Herbier évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire l'arrestation tonitruante. Évidemment, la cour est stupéfaite dans la galerie des glaces du cardinal de Rohan.
Voilà, parce qu'en réalité, le baron de Breteuil et la reine ont gardé secrète cette histoire le plus longtemps possible.
Breteuil qui avait été chargé de l'enquête.
Oui, mais à un moment donné, il faut bien prévenir le roi. Et c'est là que Marie-Antoinette est une actrice, enfin mauvaise actrice, mais une actrice, c'est-à-dire qu'elle va mettre en scène toute cette journée du 15 août. On l'a présentée comme l'honneur offensé d'une reine. C'est une parfaite mise en scène. Elle joue. Hein, vous savez qu'elle adorait jouer elle-même du théâtre. Hein. On avait demandé au prince de ligne comment avez-vous trouvé la reine royalement mauvaise. Bon, mais il y a toute une mise en scène parce que et qui est racontée par tous les témoins. Nous sommes le 15 août 1785. Nous sommes à Versailles. Ce n'est pas n'importe quel jour. C'est le 15 août. Donc, c'est le jour qui célèbre le fameux vœu de Louis XIII et qui a voué la France à la Sainte Vierge. Bon. Donc, c'est la fête nationale, si vous voulez. Il y a 3000 à 3500 personnes à Versailles. Il y a la cour, il y a tous ces provinciaux qui veulent au moins voir le roi et la reine une fois dans leur vie.
Donc on comprend qu'il y a stupéfaction et brouhaha.
Oui, parce qu'alors, vous avez la galerie des glaces qui est pleine à craquer. Et tout le monde attend que de la porte de glace qui permet, ou de miroir, qui permet d'aller des appartements du roi dans la galerie des glaces, elle s'ouvre et qu'apparaisse le couple royal. Alors il y a d'abord déjà une anomalie, c'est que la reine devrait attendre le roi à cette porte. Et on ne voit pas la reine. Elle passe par ses appartements et là, elle est en cheveux. Elle est en cheveux, hein, c'est qu'elle n'est pas coiffée et elle n'est pas habillée. Ce qui, alors qu'on doit célébrer la messe d'ici. Donc, et elle va passer par l'œil de bœuf où il y a vraiment le cœur de la cour et elle va rentrer dans les appartements du roi et on va voir arriver Rohan. Et dans le bureau, le cabinet d'angle de Louis XVI, il va y avoir une scène incroyable où le roi va sortir un certain nombre de documents. Alors moi, j'ai prouvé qu'il y en avait deux et pas un seul, comme tout le monde l'a raconté, qui accable Rohan. Et là, Rohan comprend que quelque chose ne va pas. Et la scène est assez bien rendue par L'Herbier, même si tout n'est pas vrai dans ce qui est dit. Et donc, la reine n'a pas parlé. La reine n'a pas parlé, très peu. Et donc, on met Rohan devant, et là, lui commence à avoir des doutes, mais il est encore persuadé à ce moment-là que la reine a joué un rôle. Et donc, il a des échanges de regards avec elle, de complicité. Donc, le cardinal est donc arrêté publiquement. Ça, c'est Breteuil qui monte le coup, pour que l'humiliation soit totale. Alors que, comme on l'entend dans l'extrait que vous venez de passer, le cardinal va supplier qu'on ne l'arrête pas, qu'il n'y ait pas un scandale. Bon. Mais comme il y a derrière une vengeance politique...
La Bastille.
Alors, il y a des choses rocambolesques, c'est-à-dire que le cardinal va réussir à faire passer un mot à son grand vicaire pour qu'il détruise, parce qu'il a compris, donc pour qu'il détruise tous les échanges de lettres, parce que ces échanges de lettres le condamneraient à mort, puisque dans ces lettres, il laissait pas transparaître des sentiments amoureux à l'égard de la reine. Et être amoureux d'une reine de France, c'est un crime de lèse-majesté. Donc c'est là, pour le coup, Rohan par Rohan, c'est la hache. Et il est conduit à la Bastille, et là, on va lui laisser le choix entre est-ce qu'il s'en remet à la justice retenu, c'est-à-dire à la justice du roi direct, ou est-ce qu'il veut un procès ? Et sa famille, et surtout son avocat, maître Target de l'Académie française, qui est peut-être un des plus grands avocats du XVIIIe siècle, lui dit « Il faut aller dans la lumière du Parlement, c'est-à-dire que ne laissez pas cette affaire se juger dans le cabinet du roi, car vous y serez condamné ». le roi.
Et c'est là qu'on rencontre la grande question des procès politiques dans l'Ancien Régime, puisque le Parlement, du même coup, va être chargé de décider.
Les deux chambres d'assemblée, hein, c'est-à-dire les deux principales chambres du Parlement de Paris, il y a 45 juges.
Or, on nous a appris que c'est le moment où le Parlement commence de s'ébrouer par rapport à la monarchie. Nous sommes tous déprémunis, les Montsabert, deux personnages qui ont symboliquement marqué cette opposition à Versailles.
Oui, d'autant que l'on sait que Marie-Antoinette essayait par ailleurs de faire pression sur le président et le procureur général. Elle les a reçus secrètement aux Tuileries, dans son appartement des Combles.
Alors, le procès ?
En fait, tout le monde va être jugé en même temps, mais le cardinal s'en tire, il est blanchi. Et surtout, elle est condamnée, et elle est condamnée à la flétrissure, c'est-à-dire qu'elle est condamnée à être fouettée et à être marquée au fer rouge.
Comme Milady dans Dumas.
Exactement. Et c'est horrible parce qu'on a les détails. Hein. C'est qu'elle s'est tellement débattue que le bourreau a manqué la cible et qu'il l'a marquée au fer sur le sein et non pas sur l'épaule.
C'est épouvantable. L'herbier en fait encore une scène que je vais vous faire entendre, le même film.
Ben, de cris.
Louis, roi de France, 16e du nom. Après comparution de Jeanne de la Motte devant le Parlement, siégeant en tribunal et l'ayant déclaré coupable, ordonnons qu'elle soit fouettée en place publique. Marquée à l'épaule de la lettre V, signe des voleuses, enfermée à la salpêtrière pour le restant de ses jours.
Le romancier en vous, Camille Pascal, ne déteste pas ces moments paroxystiques.
Ah non, puis là, c'est un moment, alors qui a été très bien aussi raconté. Je m'étais interdit de lire la scène avant d'écrire par Dumas, puisqu'on a à peu près les mêmes sources, qui sont en fait des témoins oculaires, où on voit cette femme qui est mise entièrement nue avec la foule qui au début est jouit de voir celle qui se prend pour une princesse dénudée et marquée. Alors ensuite, on va pleurer parce que les Parisiens aiment bien pleurer sur leur propre crime. Mais donc ensuite, elle est amenée à la salpêtrière, dont elle va quand même s'évader.
Alors comment ça se termine ? Sa fin est tragique.
Oui, parce qu'en fait, elle s'évade, et on pense avec des complicités diverses. En tout cas, on ne tient pas à ce qu'elle reste à Paris. Elle part rejoindre son mari qui lui avait pris la poudre d'escampette à Londres, et lui retourne à Paris. C'est assez étrange. Le personnage du mari est très, très, très bizarre. Bon, vous savez qu'il a fini quand même inspecteur de police de Louis XVIII, ce qui est quand même laisse un certain nombre de doutes quant à son rôle dans cette histoire. Moi, je pense que c'est un indique, mais bon, ça c'est. Je ne l'ai pas écrit, vous voyez. C'est une.
Mais vous le dites à notre micro, donc voilà. Le voilà désormais flétri.
C'est un indique. Et donc, qui a été payé pour ça. Bon, peu importe. Donc, et ce qui est terrible, c'est qu'elle perd un peu la raison. Elle devient la maîtresse de Calonne, quand même, ancien ministre des Finances de Louis XVI.
Ah oui, visé haut.
Elle visait haut, et surtout riche. Et donc,
mais finalement, la fin est tragique.
Oui, parce que elle est poursuivie, en fait. Bon, elle comprend pas, elle essaie de s'échapper. On sait pas si elle se suicide ou si c'est pour échapper à la police, mais elle se jette par la fenêtre. Et son agonie dure 3 semaines.
Donc, dans votre histoire, dans notre histoire que nous traitons ce matin, c'est-à-dire l'affaire du collier, sous la lumière du romancier et de l'historien, il y a tout ce qu'il faut pour faire un récit puissant, que vous faites d'ailleurs, avec toutes les passions. Il y a de l'or, il y a de la jalousie, de la haine, et beaucoup de cris.
Et des diamants. Oui, parce que toutes les passions sont là. Et donc, pour un romancier, on est là pour expurger les passions, non si...
donc... Les diamants continueront à être, si je puis dire, sulfureux en politique, mais à cet égard, je ne ferai pas de concordance d'état.
On pourrait.
Alors, je vous en prie.
On pourrait, parce que je suis convaincu que le silence gardé de Valéry Giscard d'Estaing sur les diamants de Bocassa s'explique par l'affaire du collier. C'est-à-dire qu'il ne veut pas d'une affaire publique qui pourrait le salir encore plus que la rumeur. Et en fait, il a eu tort.
Eh bien, c'est votre interprétation. Je l'agrée tout à fait.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeanneney.
Revenons à notre affaire du collier et revenons à ses conséquences. Parce que l'opinion publique va désormais jouer un rôle essentiel. Et on est dans un des mouvements qui annonce, c'est ce que Robert Danton, dans son magnifique livre sur l'humeur révolutionnaire, les années qui précèdent 1789, j'avais reçu au rendez-vous d'Histoire de Blois, ce que Danton analyserait très bien, et que je voudrais que vous évoquiez maintenant, si vous voulez bien, Camille Pascal, ce sont les relations entre l'opinion publique, les Parisiens, et la politique. C'est le moment où, dans un Alléluia que je vais vous faire entendre, on voit cette observation ironique, le Saint-Père, à propos de Rouen, le Saint-Père l'avait rougi, le roi, la reine l'ont noirci, le Parlement le blanchira.
Alléluia.
Vous avez remarqué avec quelle délicatesse j'ai choisi une chanson où on évoque le temps Pascal, ce qui pour un romancier historien me paraît fort bienvenu.
Et surtout quand il s'appelle Pascal.
C'était donc la chanson Alléluia qui a été produite précisément à Pâques 1786 et qui est chantée ici par Julie Pietri en 1989 à l'occasion naturellement du bicentenaire de la Révolution française. Une partie seulement des couplets sont ici chantés. Vous citez dans votre livre « Oliva dit qu'il est dindon », il s'agit du cardinal de Rouen. « La Motte dit qu'il est fripon », lui-même dit qu'il est bêta.
Alléluia. Mais d'ailleurs, alors c'est une découverte que j'ai pu faire en consultant le journal du maréchal de Castres, qui raconte avec précision les événements et qui a été très peu utilisé. Lorsqu'il a été arrêté, il n'est pas envoyé le soir même à la Bastille, il est même ramené à Versailles le lendemain pour qu'on puisse mettre les scellés sur son appartement. Et lorsqu'il descend de carrosse, il est évidemment entouré de gardes françaises, et il a cette formule incroyable, qui est notée par le maréchal de Castres, et qui correspond à la chanson. Il dit « On me traite en criminel, mais c'est un brevet d'imbécilité qu'il faudrait me donner ».
Cette chanson révèle bien, éclaire bien ce qu'a pu être l'évolution de l'opinion publique, et notamment des Parisiens contre Versailles, Camille Pascal.
Oui, et surtout que l'opinion publique avait compris que le cardinal en sortirait blanchi, puisque le Parlement le blanchira. Ce n'est pas une chanson qui a été écrite après le verdict. Bon. La reine a mauvaise presse. Elle a mauvaise presse depuis qu'elle est arrivée en France. Bon. Mais là, ça aggrave les choses. Ça aggrave les choses parce que si le cardinal est blanchi, c'est bien que c'est la reine qui est coupable. Et par ailleurs, je suis convaincu qu'à l'époque, l'opinion publique sait ce que moi j'écris dans le livre. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'elle a essayé de coincer Rouen. On sait le rôle qu'a joué Breteuil. On sait qu'elle a essayé de rencontrer en secret le procureur général. Qu'elle a essayé d'influencer le président du Parlement. Ça se sait. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette mauvaise presse, on a dit ensuite « Ah oui, mais on a accablé la reine ». Non,
Ce qui s'est passé, c'est qu'on a blanchi la reine au XIXe siècle. Mais qu'au XVIIIe siècle, on sait exactement ce qu'il se passe. Et c'est ça qui est intéressant. La vox populi, là, elle est bien vox dei, c'est-à-dire qu'elle dit la vérité.
Même sous un régime, l'ancien régime, l'opinion publique, c'est ce qu'ont bien montré des travaux d'historiens nombreux, existe, pèse et va conduire notamment à 1789.
Oui, et les pamphlets. Parce que Louis XVI est bien moins sévère que Louis XV. Louis XV, on peut lui faire mille reproches, mais enfin, quand ça touchait à sa personne et à la majesté de sa personne, vous finissiez quand même 40 ans en cellule. Voilà.
Alors tout ça conduit à l'évolution de l'image de cette affaire du collier dont nous parlons ce matin, Camille Pascal. Au XIXe siècle, il y a vraiment deux familles d'interprétation autour justement de la responsabilité de la reine. Je voudrais que vous nous évoquiez cela, puisque vous vous intéressez à l'historiographie comme romancier.
Oui, parce que j'ai voulu regarder comme historiographe, ou spécialiste d'historiographie, j'ai voulu regarder cette histoire. En réalité, Marie-Antoinette a mauvaise presse sous la Restauration. Donc, ce n'est pas un personnage central de l'imagerie royaliste, hein, contrairement à ce qu'on raconte. Arrive Michelet, qui, dans son histoire de France, va accuser ouvertement Marie-Antoinette d'avoir détourné les diamants.
Il la charge avec une grande violence. Il exonère de certaines rumeurs comme quoi elle aurait eu une liaison saphique avec Jeanne. Ouais. Mais pour le reste, elle l'accuse d'avoir voulu s'emparer du collier par l'intermédiaire du cardinal, de l'avoir dépecé elle-même, etc. On est très très loin
de la vérité.
De la vérité.
Et en fait, il la présente comme la croqueuse de diamants. C'est une écriture républicaine et c'est une écriture militante. Hein. Michelet est militant de la République.
Alors qu'en revanche, il y a toute une autre historiographie qui est marquée surtout par des royalistes qui sont défenseurs de la vertu de la reine.
Oui, et qui vont essayer de sauver la reine. Et ce sont des chartistes. Alors, ils vont essayer de prouver par les archives, un travail souvent très sérieux, mais dont ils omettent quelques pièces, que la reine est entièrement innocente. Et cette tradition va durer très longtemps. Elle va durer très longtemps parce que jusque dans les années 50, on va sauver la reine, on va vouloir sauver la reine. Et de 1850 à 1950, il y a vraiment une historiographie qui veut sauver la reine.
En pointe, il y a les frères Goncourt
oui,
en particulier qui disent que la duperie du cardinal, l'escroquerie de Madame de Lamotte, l'innocence de la reine n'étaient plus à démontrer, elles éclataient et n'appartenaient plus à la discussion. C'est cette discussion que vous avez rouverte.
Voilà. Pourtant, j'adore les Goncourt. Mais il y a, en effet, il faut sauver la reine. Jusqu'à André Castelot, hein, et à sa grande biographie de Marie-Antoinette. Et après, comme ce sont des femmes qui s'emparent du récit et de la biographie de Marie-Antoinette, il faut sauver la femme. Mais je suis convaincu, moi, qu'on a enterré, en réalité, cette part de culpabilité de Marie-Antoinette, qui est d'avoir écouté les sirènes du baron de Breteuil et d'avoir voulu se venger. Car si, dès le mois de mars, lorsqu'elle en est informée par le lieutenant général de police...
Le Noir,
comme par hasard, qui va être viré. Ça aussi, c'est une chose dont aucun historien n'a voulu tirer les conséquences. Mais enfin, quand même, quand vous avez l'homme qui tient les renseignements généraux depuis 10 ans à Paris et que l'on met à la retraite 5 jours avant l'arrestation du cardinal, c'est qu'il y a un problème.
Avertissement pour notre période contemporaine.
Oui. Mais écoutez, si aujourd'hui vous aviez une démission du directeur des services secrets et du préfet de police de Paris 5 jours avant qu'éclate un scandale d'État, vous vous interrogeriez.
Alors parmi les grands auteurs, romanciers, vos prédécesseurs, Camille Pascal, il y a naturellement Alexandre Dumas qui propose un ouvrage qui s'appelle précisément L'affaire du collier.
C'est triste voilà pour moi parce que j'aurais bien aimé le titre, mais je ne pouvais pas.
Eh bien, écoutez donc ce qu'en dit André Mauroy. Je veux dire d'Alexandre Dumas comme historien et romancier à la fois. C'est un extrait d'une grande conférence, comme on disait à l'époque, diffusée le 17 octobre 1955. Je rappelle que Mauroy est l'auteur d'une biographie triple des trois Dumas. C'était le titre d'un de ses livres qui a eu beaucoup de succès à l'époque. Le grand-père, oui, le général, Alexandre Dumas et Alexandre Dumas fils. Si je suis bien informé, Camille Pascal, c'est vous qui avez rédigé comme plume, vous avez rédigé le discours du Panthéon, Chirac accueillant Alexandre Dumas.
Vous êtes parfaitement informé, ce qui ne m'étonne pas de vous.
Il n'était par nature ni un érudit, ni un chercheur. Il aimait l'histoire, il ne la respectait pas. Qu'est-ce que l'histoire, disait-il, c'est un clou auquel j'attache des romans. Il froissait la robe de Clio, il pensait qu'on a le droit de prendre avec cette muse de grande liberté à la condition de lui faire un enfant. Se sentant viril et fort capable de faire l'enfant, il n'était guère disposé à écouter les minutieuses confessions de cette muse un peu pédante, volontiers radoteuse et qui s'attache aux détails. Il savait bien que comme historien on ne le prendrait jamais au sérieux. Ce sont les histoires illisibles qui font sensation, disait-il. C'est comme les dîners qu'on ne digère pas. Les dîners qu'on digère, on n'y pense plus. À la vérité, il ne possédait pas la patience nécessaire à l'historien. Même pour le roman historique, il souhaitait réduire les recherches au minimum. Il avait besoin qu'on lui apportât une matière première sur laquelle il pût exercer ses dons d'animateur. Dans cette énorme production, il y a peu d'échecs. Tous ces romans sont amusants, vivants, on ne peut les quitter. Ils sont devenus l'aliment inépuisable des loisirs du monde entier. Personne n'a lu tout Dumas, ce serait aussi impossible que de l'écrire. Mais toute la Terre a lu du Dumas. S'il existe en ce moment, disait-on en 1850, dans quelque île déserte, un Robinson Crusoe, il est certainement en train de lire les Trois Mousquetaires. Il faut ajouter que le monde et la France ont appris l'histoire de France dans Dumas. Elle n'y est pas entièrement vraie, mais elle est loin d'y être entièrement fausse. Et puis, comme je vous citais tout à l'heure, le bon géant, on a le droit de violer l'histoire pourvu qu'on lui fasse un enfant. Or, les enfants de Dumas étaient tous bien vivants. Dumas fait-il penser rarement, rêver jamais, tourner la page toujours.
Vous approuvez ce regard d'André Mauroy, Camille Pascal ?
Ah mais c'est Dumas, c'est une très belle définition de Dumas. Et au fond, en l'écoutant, je me disais que peut-être que je peux me présenter comme l'anti-Dumas tout en restant écrivain. C'est-à-dire...
Vous haussez un peu du col, non ?
Oh, l'anti-Dumas, c'est... je me... Mais tout en restant écrivain, parce que, au fond, je fais l'inverse de Dumas, mais nous avons la même passion de l'histoire et de ces moments de bascule. Dumas, en réalité, il se sert de l'événement comme décor du théâtre de son roman.
C'est là que vous le rejoignez, que vous l'aimez.
Oui, mais il invente, c'est-à-dire qu'il crée des intrigues, il crée des personnages, il crée qui n'ont rien à voir avec l'histoire, mais l'histoire reste la toile de fond. Et très modestement, puisque vous me le rappelez, je préfère pour ma part que l'histoire reste au centre de mon roman. C'est pour ça qu'il n'y a pas de personnage fictif, qu'il n'y a pas de dialogue fictif.
Alexandre Dumas, Camille Pascal, a pris parti, au fond, dans le débat avec lequel nous ouvrions cette émission consacrée à l'affaire du collier, quand il disait « Nous avons espéré », il parle de son livre notamment sur l'affaire du collier, il écrit « Nous avons espéré qu'il restait une place à prendre entre ces hommes qui n'ont point assez d'imagination, j'imagine que ce sont les historiens de la Sorbonne, et ces hommes qui en ont trop. » Mais nous nous sommes convaincus que les dates et les faits chronologiques ne manquaient d'intérêt que parce qu'aucune chaîne vitale ne les unissait entre eux et que le cadavre de l'histoire ne nous paraissait si repoussant que parce que ceux qui l'avaient préparé avaient commencé par enlever les chairs nécessaires à la ressemblance, les muscles nécessaires au mouvement, enfin les organes nécessaires à la vie. Est-ce qu'on retrouve notre discussion
oui.
du début ?
Oui, et là, je me place dans cette hérédité-là.
Nous voyons que le XXe siècle et notre XXIe siècle commençant ont également fait leur place du côté du cinéma. Il y a encore un film de Charles Schayer, qui vient de mourir d'ailleurs, un film de 2002. Et puis, dans Si Versailles m'était compté, Guitry, nous évoquions Guitry il y a peu, Guitry consacre 18 minutes à l'affaire du collier. Vous l'avez revu ?
Oui, c'est extraordinaire. Et puis, j'ai cru comprendre, je n'y suis strictement pour rien, donc que vos auditeurs ne me l'attribuent pas, mais la deuxième saison de la série Marie-Antoinette sur Canal+, commence sur l'affaire du collier, et puisque ce collier fascine, c'est bien le collier qui sert d'accroche commerciale et de promotionnelle à la sortie de cette deuxième saison qui doit arriver sur Canal, je crois, en février.
Eh bien, nous aurons ajouté notre contribution à cette promotion. Je ne m'en plains pas. Et puis, il faut rendre hommage au grand Edgar P. Jacobs, qui a donné une aventure de Black et Mortimer, qui s'appelle précisément l'affaire du collier. Vous l'appréciez ?
Oui. Ce que je trouve formidable, c'est, au fond, la postérité de cette affaire. C'est que ces diamants, quand même, continuent à fasciner 2 siècles et demi plus tard.
J'espère qu'ils ont fasciné notre auditoire au long de l'heure qui vient de s'écouler. Camille Pascal. Ces diamants n'ont pas tous disparu. Les hasards, à cet égard, sont toujours puissamment intéressants.
Oui, la concordance des temps, là, elle est complète. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, le duc et la duchesse de Sutherland ont offert leurs diamants, le collier et le bracelet qu'ont porté les Sutherland depuis la fin du XVIIIe siècle et dont tout porte à croire, avec vraiment véracité, qu'il s'agit des plus gros diamants collier de la reine, vendus par Grey, père et fils, au duc de Sutherland. Et récemment, encore un grand collier qui a été vendu à Genève, avec, encore une fois, des diamants très certainement issus du collier de la reine, parce que sur le marché anglais du diamant, il y a à parier que cet apport incroyable a alimenté l'aristocratie anglaise pendant 20 ans.
Votre livre, Camille Pascal, qui est vraiment un livre page-turner, un livre plein d'énergie, de force, de couleur, s'appelle « La reine du labyrinthe ». Et j'y renvoie à nos auditeurs et nos auditrices pour prolonger la réflexion sur cette affaire du collier que nous avons évoquée aujourd'hui. Et votre premier roman, dans cette même veine, s'appelait « L'été des quatre rois », paru chez Plon en 2018, qui a eu le grand prix du roman de l'Académie française. De quoi s'agissait-il ?
De raconter la Révolution de 1830. Et voyez, l'Académie française avait tranché notre débat puisqu'elle avait accepté de remettre le Grand Prix du roman à un livre qui aurait pu être considéré comme un récit.
Qui étaient les quatre rois ?
Eh bien, vous avez Charles X, vous avez Louis XIX, vous avez le petit Henri V, et puis surtout, vous avez celui qui va tirer les marrons du feu, comme toujours avec les Orléans, c'est-à-dire Louis-Philippe.
Sur l'affaire du collier, on dispose du très bon livre de Evelyne Levert, qui remonte à 2004 chez Fayard. J'ai cité aussi, chemin faisant, l'ouvrage de Robert Darnton, qui s'appelle « L'humeur révolutionnaire » et qui évoque précisément, du côté de l'opinion publique, les effets de l'affaire du collier. Vous en avez fait votre miel ?
Oui, et puis Darnton est quand même le plus grand historien américain de la France.
J'accepte cette définition. Je voudrais enfin rendre hommage, avant que vous puissiez vous reporter vers les ouvrages qui seront cités en ligne, l'ouvrage au très beau livre d'Emmanuel Loyer qui s'appelle « L'impitoyable aujourd'hui », paru chez Flammarion en 2022, qui est une réflexion d'historienne universitaire, Camille Pascal, sur les apports de la littérature à notre discipline, et peut-être réciproquement. Je crois que nous l'avons prouvé pendant une heure. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, réalisée par Vincent Abouchard, avec Romain Luquiens à la prise de son, avec Célian Guillemard à la discothèque et Delphine Desbiens pour les archives de l'Institut national de l'audiovisuel.